l'actualité.
Europe 1, la France bouge. Elisabeth Assayag.
Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue dans La France Bouge. Vous êtes au bon endroit pour découvrir des talents, de l'audace, des idées, des femmes et des hommes qui accompagnent les changements de notre société. La France Bouge, c'est votre rendez-vous des entrepreneurs et de nos pépites françaises. Au sommaire de votre émission, c'est la journée internationale des sages-femmes, un métier essentiel et pas toujours reconnu. Dans cet univers mère-enfant, quelles sont les innovations françaises? Cette entreprise qui appartient au groupe Pierre Fabre fabrique des produits pour les bébés et pour toute la famille. La patronne de Clorane est l'invitée de La France Bouge. À la une, la femme enceinte et la jeune maman. Comment accompagner ces femmes quand elles sont en situation de précarité? On a trouvé une cohabitation solidaire pour passer en douceur cette transition de la vie. La maison de Marthe et Marie propose des solutions. On découvre cette association d'ici quelques minutes. Ensuite, le métier de sage-femme. Il a fallu l'encadrer, le réglementer, former. Le Conseil national de l'ordre des sages-femmes qui existe depuis 1945, c'est la saga du jour. Rendez-vous à 13h30 pour le récit. Le pitch des trophées européens de l'avenir avec notre partenaire la CCI et Nathalie Carré. Bonjour Nathalie.
Bonjour Elisabeth. Alors aujourd'hui on reçoit Louvs. C'est des produits de soins pour prendre soin justement des mamans avant et après l'accouchement.
Ils sont tous fabriqués en France. Rendez-vous à 13h45 pour les découvrir. Et puis en fin d'émission, demain au travail. On va passer un coup de fil à une start-up spécialisée dans la menuiserie. Là-bas, ils ont mis en place un congé menstruel. Et oui, c'est ça, la France bouge. Vous pouvez nous suivre sur europe1.fr. C'est parti, nous sommes ensemble jusqu'à 14h. La France bouge, toutes ces entreprises qui innovent, ces initiatives positives, c'est ici à La France bouge sur Europe 1. Et en cette journée internationale de la sage-femme, on a eu envie de découvrir davantage ce métier et les innovations françaises aussi qui existent pour accompagner les jeunes mamans. On en parle jusqu'à 14h avec nos invités et avec notre patronne du jour. Bonjour Claire Capla.
Bonjour.
Bienvenue dans La France Bouge. Vous êtes la directrice de la marque Clorane. Clorane existe depuis plus de 50 ans. Ce sont des shampoings, des produits pour bébés. Hein, Nathalie, on a tous quelque chose à voir avec Clorane. Vous appartenez, Clorane, au groupe Pierre Fabre, présent dans plus de 25 pays. Une centaine de personnes travaillent. Pierre Fabre, le groupe, c'est 10 000 collaborateurs dans le monde. Clorane a été créé par un botaniste et qui est aussi pharmacien. Donc, dès le départ, ce sont des solutions naturelles qui sentent bon. Hein. Sentir bon, c'est important, c'est comme un gage de bien-être. Comment ça va en ce moment, Claire Capla, chez Clorane?
Clorane, c'est effectivement vraiment la rencontre entre la nature et la pharmacie, avec toute cette expertise que peut nous apporter notre ADN de pharmacien, donc des produits sûrs, efficaces. Et en fait, ça répond pleinement aux attentes du moment des gens, notamment dans le contexte de la crise Covid, où on a besoin d'être rassuré sur la sûreté, l'efficacité des produits qu'on achète. Et donc, on est en plein dans cette tendance de venir rassurer les mamans, notamment quand elles sont primées par, qu'elles achètent des produits pour leur bébé, d'avoir le gage que c'est à la fois des formules très naturelles, mais aussi qui ont été testées par des dermatologues, par des pédiatres, et donc qui leur garantissent une efficacité et une sécurité à tout moment.
Alors, le groupe, en fait, qui a acheté en 65 les laboratoires Clorane, 3 ans après sa création, donc vous êtes les premiers, en fait, dans le groupe. Est-ce que ça vous donne un statut particulier?
Oui, parce qu'il y a d'autres marques dans le groupe.
Il y a d'autres marques, il y a Ducré, il y a Aven. Ça vous donne un statut particulier chez Clorane d'avoir été les premiers?
On est la marque de cœur, j'ai envie de dire. Effectivement, la première marque créée par M. Pierre Fabre et celle, peut-être, dans laquelle il a mis le plus de sa personnalité, puisque c'était lui, à la base, qui était passionné par les plantes, et donc il a vraiment mis sa personnalité. Et ça crée un attachement très, très fort dans tous les collaborateurs du groupe. Et puis, l'autre point qui crée un attachement très fort, c'est que là, on parle de Clorane, mais il y a aussi à côté de Clorane une fondation qui s'appelle Clorane Botanical Foundation, qui a été créée en 1994, à une époque où personne ne parlait de préserver l'environnement, préserver la biodiversité. Et cette fondation, elle agit pour vraiment préserver la biodiversité dans une trentaine de pays dans le monde. Et donc ça, c'est très fort pour les collaborateurs, mais pour nos consommateurs
alors
aussi.
Alors, c'était bien de le faire en 1994, cette fondation. Aujourd'hui, il y en a beaucoup, beaucoup. Mm-hmm. Vous faites, quelles sont les actions concrètes? Parce que protéger la biodiversité, c'est commun aujourd'hui et c'est très vaste.
On va dire que le choix qui a été fait, c'est de se concentrer sur le végétal. Donc déjà, on n'est pas sur la biodiversité animale, etc. On est vraiment sur le végétal et avec un souci de transmission. Donc, c'est deux mots-clés peut-être qui définissent les missions de la Fondation. Et donc, en fait, on va avoir des programmes qui peuvent aller, par exemple, d'un programme qu'on a en Amazonie, où on va aller aider des cultivateurs à cultiver selon des pratiques d'agroforesterie et à les éduquer à comment est-ce que, au lieu de faire, par exemple, de la monoculture extensive, je vais aller sur une parcelle, mettre plusieurs plantes différentes qui vont s'entraider, se protéger, etc. Et donc, on les aide à ça, on les forme à ça. Et on forme aussi leurs enfants à l'importance de préserver leur écosystème. Donc ça, c'est un des grands projets qu'on a et qui joue vraiment sur nos deux valeurs principales, le végétal et la transmission.
Donc,
France, vous faites quoi comme action? Parce que là,
oui. on a l'Amazonie. Déjà chez nous. En France, il y a un programme qui est très historique, qui s'appelle Graines de botaniste, qui est en fait un programme qui vise plutôt à agir sur le pilier transmission.
Il n'y a pas un cadeau à gagner en ce moment?
Il y a des coffrets.
Il me semblait bien.
Voilà, des petits coffrets à gagner, effectivement, pour venir jouer avec les enfants et les aider à découvrir les plantes, les espèces, faire des chasses au trésor dans la nature pour trouver des feuilles, des marrons, des choses comme ça, et les sensibiliser à la biodiversité végétale. Et puis on travaille avec les écoles aussi. Les professeurs peuvent être aussi un levier pour transmettre cette passion botanique
aux enfants. Cette passion botanique pour les enfants. On va rentrer un petit peu dans le détail de vos produits. Vous avez un produit phare, je crois, qui est le shampoing sec, c'est ça?
Oui, tout à fait.
C'était le premier shampoing sec à entrer sur le marché?
Tout à fait. En fait, les premiers produits Chlorane, c'était d'abord des produits bébés et capillaires. Et puis très vite après, en 1974, on a lancé ce fameux shampoing sec, qui était un ovni à l'époque. Personne n'avait jamais entendu parler de ce geste.
C'était quoi le besoin? Pourquoi vous avez
allé là-dedans? Et l'idée, alors c'est aussi fou que ça paraisse, l'idée en fait c'était de permettre aux personnes qui étaient hospitalisées ou handicapées de se laver les cheveux sans forcément avoir accès, de l'eau, aller à la douche, etc. Donc c'était vraiment un positionnement très... presque médical, j'ai envie de dire.
Thérapeutique même. Thérapeutique. Parce que c'est important de se laver les cheveux même quand on est malade.
Au fur et à mesure, en fait, l'usage s'est ouvert à beaucoup d'autres utilisations. Aujourd'hui, on l'utilise pour donner la texture aux cheveux, pour aussi les nettoyer, mais pour du styling. Donc, il y a plein d'usages qui sont créés autour.
Mais c'est marrant parce que c'est très éloigné de l'image que vous avez. Et là, vous nous parlez du shampoing sec, du styling, du volume. Mais en fait, quand on pense à Chlorane, on pense aux fesses des bébés, quoi. On pense au liniment, à la crème à base de calendula. On ne pense pas du tout à se refaire une mise en place.
C'est la particularité de cette marque, c'est d'avoir en fait des plantes qui viennent répondre à des besoins pour toute la famille. Donc vous avez raison, on a le calendula qui va s'occuper des fesses de bébé.
D'ailleurs, c'est la plante historique chez Chlorane.
Depuis toujours, nos produits sont basés sur les propriétés du calendula qui va aller protéger, apaiser la peau de bébé.
Elle est au cœur de toutes les formules, cette plante?
Toutes les formules du bébé, tout à fait.
Ah oui, pour le bébé, oui, parce que j'ai regardé vos formules pour les adultes. Oui. Alors là, j'étais limite déçue, parce qu'en fait, comme tout le monde, finalement, votre premier produit, c'est de l'eau. Bon, ça, on le sait. Hein. Ensuite, c'est des tensioactifs, des agents lavants, puis pour un shampoing, par exemple, des agents qui suppriment l'électricité statique. Et enfin, à la fin, le fruit ou la plante. On n'a pas de plante qui suffise à elle-même et qui éviterait d'avoir tous ces agents. Là, vous êtes au moins à 17 composants par produit.
Alors ça dépend. Il y a des produits, on va être sur des compositions beaucoup plus simples, à 5 à 10 composants, qui vont être souvent des soins. En fait, les crèmes, par exemple, c'est beaucoup plus facile de faire une formule courte. On a l'actif, on a des texturisants qui vont apporter la texture, et on a les conservateurs. Et sur les formules moussantes, c'est plus compliqué, parce que si on ne veut pas avoir une texture qui coule trop, qui ne mousse pas, qui soit quand même facile à utiliser, on est obligé de mettre un peu plus d'actifs. Mais on ne met pas n'importe lequel. On a vraiment une démarche en fait, qu'on appelle Conscious Care, qui est valable pour tout le groupe Pierre Fabre, qui nous permet en fait, de choisir le moins d'ingrédients possible et les ingrédients qui sont à la fois les plus naturels, mais aussi les plus sûrs. Donc c'est vraiment ce juste équilibre qu'on essaie de trouver. Naturalité, sûreté. On en revient à notre histoire. Et ça nous mène parfois à faire des choix difficiles parce que on pourrait aller à 100% de naturalité, mais peut-être qu'on serait moins sûr parce que
vous n'êtes jamais allé sur le bio encore?
On a des produits bio pour le visage, on a des produits bio. On vient d'en lancer une il y a quelques mois à la menthe aquatique, une gamme pour les peaux mixtes à graisse, entièrement certifiée bio.
Donc là, on n'est pas sur les bébés, mais pourquoi vous n'êtes pas allé sur le bio pour les bébés? Vous parlez de rassurer les parents, oui, ça pourrait les rassurer en se disant il n'y a pas de conservateur, il n'y a rien de spécial. Pourquoi vous n'allez pas sur le bio les produits dédiés aux enfants?
On y réfléchit, c'est une piste, un axe de travail qui devrait sortir l'année prochaine. Donc vous voyez, vous avez tout à fait raison. Mais paradoxalement, on se rend compte que le bio n'est pas un argument pour toutes les mamans, finalement.
Ah bon, pourquoi?
Parce que pour certaines...
On préfère plein de conservateurs.
Oui, c'est mieux.
Mais la naturalité est plus importante. Et encore une fois, le côté caution de Chlorane, je sais que ça fait des 50 ans qu'ils font des produits, donc ils sont sûrs, et plus importants.
Donc on fait davantage confiance à la marque,
voilà, marque
qu'au label bio. Exactement. Vous restez avec nous, Claire Capla, vous êtes la directrice de la marque Chlorane. Ça va bien chez Chlorane, hein, puisque vous êtes en croissance entre 3 et 5% tous les ans depuis 2019. Vous allez rester avec nous, on va continuer à parler de ces solutions mises en place en France pour accompagner les jeunes mamans, hein, cette journée internationale des sages-femmes.
Europe 1, la France bouge. Elisabeth Assayag.
Et si vous nous rejoignez, bienvenue dans La France Bouge, l'émission qui met en avant les entrepreneurs français, les pépites françaises, les associations, les initiatives positives. On est là pendant une heure hein, pour voir le verre à moitié plein. Et on le voit chaque jour, il y a des tas d'initiatives en France absolument extraordinaires. Et aujourd'hui, nous sommes ravis d'être avec vous, Claire Capla. Vous êtes la directrice de la marque Clorane en cette journée internationale des sages-femmes. On a eu envie de mettre en avant toutes ces solutions qui existent pour accompagner la maman, la jeune maman et les bébés dans les premières années de la vie. Dans ce monde de la grossesse et de la naissance, on rencontre parfois des histoires de vie. On peut être touché hein, par la détresse et l'isolement de certaines femmes enceintes. Alors justement, face à cela, une fée, et on peut dire que c'était une fée, hein, c'est une fée, Aline Dar a fondé la maison de Marthe et Marie. Bonjour Amélie Merle.
Bonjour Elisabeth.
Bienvenue dans La France Bouge. Vous êtes la directrice de l'association La Maison de Marthe et Marie. C'est une association qui a 10 ans. Elle a donc été fondée par cette sage-femme, hein, parce qu'elle était sage-femme à l'INDA.
Tout à fait, exactement.
Elle était sage-femme, elle voyait de jeunes mamans avec des nourrissons de 3 jours hein, qui étaient sans domicile. C'était un peu ça l'histoire.
Exactement. Donc pendant l'exercice de son métier, Aline était confrontée à certaines femmes qui viennent accoucher toutes seules, sans aucune affaire, sans rien. Et qui, au bout de 3 jours, se retrouvent à la rue avec leur petit bébé. Donc Aline a eu l'intuition qu'il fallait les aider, répondre à leurs besoins. Elle a monté autour d'elle un petit groupe d'amis d'abord. Hein, et ils ont réfléchi ensemble à quels étaient les besoins et comment y répondre. Et l'intuition, en la détaillant un peu, s'est portée sur 2 axes majeurs. Le premier, c'est tout simplement un besoin d'un toit.
Un toit.
Voilà. On est à la rue, on a besoin d'un endroit sécur pour pouvoir vivre les derniers jours de sa grossesse et puis accueillir son bébé dans de bonnes conditions. Mais ce n'était pas le seul besoin. Il y a un deuxième besoin pour les femmes enceintes, c'est celui d'être entourée. Parce qu'on ne devient pas maman par un coup de baguette magique en un instant. Pour vivre cette transition de jeune fille à maman, il faut un entourage, il faut du temps.
Surtout que la grossesse, là, dans ces cas-là, n'est peut-être pas hyper désirée. Si elles sont des femmes...
Ou pas très épanouies.
Elles doivent être dans une situation morale qui est...
Oui, tout à fait. On a des mamans qui sont un peu, entre guillemets, en grossesse surprise. Ce n'est pas le cas de toutes. Il y a vraiment toutes les situations. Mais voilà, l'idée de départ, ça a été de répondre à ces deux besoins, le fait d'avoir un toit et le fait d'être entouré.
Donc avoir un toit, être entouré, c'était ça les besoins de ces mamans. Et c'est comme ça que il y a eu cette intuition de colocation solidaire.
Exactement. Donc la première colocation a pu ouvrir en 2010.
Il y a eu quand même 3 années de réflexion avant.
Oui, trois années de recherche.
C'est un travail abouti, ça ne s'est pas fait d'un coup de baguette magique.
Pas du tout. Il y a eu plein d'essais qui étaient à la limite d'aboutir et qui se sont effondrés, on va dire, un peu au dernier moment. Voilà, jusqu'à 2010, l'ouverture de la première coloc à Lyon.
Donc cette première coloc était à Lyon. C'est quoi? C'est une maison? C'est un appartement?
C'est un appartement. Tout simplement. J'ai envie de dire, c'est comme à la maison. Il n'y a rien de plus, si ce n'est qu'il y a 8 chambres. Donc, c'est quand même un grand appartement.
Voilà.
C'est un grand appartement de 8 chambres.
Voilà.
Ah, donc, c'est vraiment de la coloc.
C'est vraiment une coloc comme toutes
les
colocs. Voilà, il y a les 8 chambres, il y a une grande cuisine, un grand séjour, 2 salles de bain. Et puis, quand on a un petit peu de place résiduelle, on installe une nurserie avec une baignoire à hauteur pour que les mamans puissent laver les bébés.
C'est extraordinaire.
Mais sinon, c'est comme à la maison, il n'y a rien de plus. Voilà.
Mais vous l'avez acheté cet appartement? Il sort d'où?
Aujourd'hui, on les loue.
Ouais.
On a des bailleurs qui peuvent être des bailleurs soit privés, soit des logements sociaux,
des bailleurs sociaux.
Voilà. On a un diocèse qui nous met à disposition une maison à Rouen, la dernière qu'on vient d'ouvrir. Donc là, c'est une grande maison, pour le coup, c'est pas un appartement, avec 8 chambres.
Avec un petit jardin.
2 salons, mais en plein centre-ville, un beau jardin ensoleillé. C'est
quoi de mieux pour ces...
Ouais,
pour
c'est génial.
Des particuliers aussi, parce que vous avez une déduction fiscale quand vous prêtez comme ça, un don comme ça.
Oui, on a des particuliers, mais eux, ils nous le louent. Voilà, il y a toutes les configurations.
Il y a un peu toutes les configurations. Donc la première maison, c'était à Lyon. Petit à petit, le modèle s'est développé. Le projet a grandi. Vous avez ouvert à Paris aussi, Nantes, Strasbourg, Lille et Rouen.
Tout à fait. Donc voilà. Et une deuxième colocation à Paris, ce qui en fait 7.
Et une deuxième colocation à Paris. Donc c'est un logement privé, partagé, qui peut accueillir 8 personnes, 8 femmes enceintes ou avec leur bébé, ou elles sont enceintes quand elles arrivent.
Alors justement, c'est la grande nuance. L'appartement accueille bien 8 femmes, mais elles ne sont pas toutes enceintes ou mamans. Il y a 4 femmes enceintes ou jeunes mamans. Et 4 volontaires. Et ça, c'est vraiment la force de notre modèle, c'est que les femmes enceintes vivent avec des volontaires qui elles sont
mais
pas enceintes.
Mais les volontaires, elles ont une vie...
Elles travaillent,
mais elles ont envie d'une coloc.
Elles ont envie d'une coloc.
Tout simplement.
Et elles ont envie d'une coloc solidaire. C'est une coloc où elles viennent pour vivre ses relations d'amitié avec les mamans.
Donc il y a une envie, un engagement d'aider l'autre aussi. C'est pas juste j'ai besoin d'un toit, tiens j'en profite, je vais aller voir la maison de Marthe et Marie.
Voilà.
Il y a un sens derrière tout ça.
Tout à fait. Nous on parle même de mission.
Mais il y a une durée du coup, parce qu'on peut rester 10 ans.
Alors 10 ans non. Enfin bon, je dis non,
il faut
mais
quand même
voilà.
On dit un an.
On dit un an, c'est bien un an parce que ça permet de créer des vraies amitiés entre les mamans et les volontaires. Et puis en même temps, ça permet aussi de changer. Au bout d'un an, quand on a vécu avec 4 bébés qui pleurent toutes les nuits.
Oui, c'est pas
faux. Voilà. Surtout quand on est une jeune femme, on vient de démarrer son nouveau travail. C'est des jeunes pros, les volontaires. Donc elles ont aussi un engagement professionnel souvent assez important.
C'est important.
Voilà. En général, c'est un an. Parfois, c'est 2 ans. On ajuste. Mais voilà.
Quand on va voir le site de l'association La Maison de Marthe et Marie, j'ai remarqué, c'est bien écrit. Ce n'est ni un foyer, ni un centre d'accueil. C'est important pour vous de le préciser.
Oui.
Pourquoi ? Quelle est la nuance ? Parce que pour une femme qui est en situation de précarité, qui n'a pas de toit, pas de domicile fixe, ça peut être considéré comme un foyer ou un centre d'accueil. C'est une solution d'urgence, entre guillemets.
Les femmes qui viennent chez nous ne sont pas du tout en foyer, elles sont chez elles. Elles sont en coloc, comme le seraient des étudiants ou des jeunes pros, sans aucune particularité.
Elles payent ?
Elles payent un petit loyer qui est bien sûr solidaire et qui est associé à leurs revenus. L'idée, c'est aussi de leur permettre de constituer une petite économie pour la suite, puisque quand elles quittent la coloc, elles s'installent en général toutes seules dans un appart. Donc il faut qu'elles puissent payer leur caution, payer les meubles, enfin voilà, comme tout le monde. Mais elles sont chez elles, donc elles peuvent inviter leurs amis, elles peuvent faire des fêtes.
Voilà. Mais du coup, c'est quoi les situations de détresse qui viennent chez vous ? Parce qu'on voit bien la personne sans domicile fixe, on voit très bien, il y a toutes les difficultés, mais il y aurait quoi ? Une dépression, des parents qui vous chassent
les profils. Alors, les profils, ils sont très très variés. S'il y a un point commun, ce serait l'isolement. C'est-à-dire qu'au moment de cette grossesse, la femme perd son logement et se retrouve toute seule à l'assumer. Alors pourquoi est-ce qu'elle perd son logement ? Soit parce que ses parents n'acceptent pas cette grossesse et estiment que
vous n'avez pas gardé les jeunes.
Alors on n'a que des majeurs. D'accord. Parce qu'on n'a pas d'agrément pour accueillir les mineurs, mais que des majeurs. Mais à 18 ans, on est encore chez ses parents. Oui. On se fait mettre à la rue parce qu'on est enceinte et que ce n'était pas le projet des parents. Point.
Oui,
voilà.
Malheureusement.
Il y a des jeunes femmes qui sont étudiantes, j'ai envie de dire tout à fait normalement, mais qui sont hébergées dans les résidences du CROUS ou dans des résidences étudiantes.
Bébé,
on
n'accueille
pas les bébés. Oui, alors là, il faut bien leur trouver une solution.
Mais elles payent comment ?
Alors, parce selon leur situation,
il y a des APL comme pour un
appartement. Il y a des APL, il y a le RSA.
D'accord. Mais ce loyer est symbolique. C'est quoi en moyenne le loyer pour ces personnes-là ?
Alors, en province, c'est 300 euros et à Paris, c'est 425 euros.
425
voilà.
euros.
C'est pas un critère d'accueil chez nous. Donc,
le critère d'accueil, c'est quoi ?
Alors, il faut que les femmes soient majeures et il faut que ce soit leur premier enfant, puisqu'on ne peut pas accueillir de famille. Les gens sont trop petites. Il ne faut pas qu'elles aient de maladies psychiatriques ou médicales graves non stabilisées. Et surtout, il faut qu'elles aient envie de vivre ce projet de vivre ensemble.
Voilà. C'est extraordinaire. Claire Capla, vous êtes notre patronne du jour, vous êtes la directrice de la marque Clorane. Quel regard portez-vous sur cette association, la Maison de Marthe et Marie ?
Forcément, c'est extrêmement touchant d'entendre ces histoires de vie, finalement, et d'imaginer le cocon qu'on permet à ces gens de trouver. Et je ne peux qu'imaginer les relations qui se créent en fait dans ces chambres, ces colocations.
C'est des histoires de vie incroyables.
La fondation Pierre Fabre, donc pas celle de Clorane, mais la Pierre Fabre, elle pourrait offrir des produits,
des logements
pour toutes ces mamans dans ces associations.
Aujourd'hui, la mission de la fondation Pierre Fabre, elle est vraiment centralisée sur l'accès aux médicaments aux populations défavorisées et plutôt centrée sur l'Afrique et les pays d'Asie du Sud-Ouest. Donc ce n'est pas le cœur de la mission.
Mais ça pourrait l'être. Parce qu'il y en a en France aussi des besoins.
Ça pourrait.
Donc on a les produits Clorane qui s'effondrent dans le studio, il y en a tellement. Claire Capla, donc vous approuvez cette initiative de la maison de Marthe et Marie. Amélie Mère, il y a combien de places d'accueil aujourd'hui dans vos maisons ?
Aujourd'hui, on a 54 places.
54 sur les civils ?
Sur civils.
Sur les civils. Et la suite, c'est quoi ? Ce serait d'en avoir partout ?
Alors, on aimerait bien, on y travaille, voilà, avec les moyens qu'on a. On souhaiterait ouvrir un petit peu plus dans le sud, parce que notre maison la plus au sud, c'est Lyon. Donc, on peut descendre encore un petit peu. On aimerait bien aller vers Marseille, peut-être un peu plus tard Toulouse et Bordeaux, si possible. Et puis, on a un très beau projet à Paris, là, qui est absolument exceptionnel, qui s'appelle Vaugirard Solidarité, dans le 6e arrondissement, où on va ouvrir 3 colocations, 4 studios tremplins. Entre la rue de Vaugirard et la rue du Cherche-Midi, donc super, avec un grand jardin. Et ça, c'est vraiment pour les mamans, c'est génial, parce qu'on a déjà, nous, notre projet d'ouverture qui permet aux mamans de ne pas être de pas vivre entre elles, en entre-soi, entre personnes en difficulté, mais avec les volontaires. Là, on espère pouvoir l'ouvrir avec les autres associations qui sont présentes sur le site et avec les gens du quartier. Parce qu'avec ce beau jardin, on espère bien qu'il y a des familles qui vont venir prôner leurs enfants.
Moi, j'ai envie qu'on puisse vous aider, Amélie Merle, pour la maison de Marthe et Marie. Comment, là, nos auditeurs qui se disent « Mais moi, j'ai un appartement que je peux louer ou que je peux mettre à disposition. »
Des vêtements à donner.
Ou des vêtements à donner. Ouais. Ou peut-être Chlorane qui va vous apporter des gros paniers de produits. Enfin, comment on peut vous aider?
Alors, les besoins sont immenses.
Bah, j'imagine.
Voilà, je vais vous faire la liste. Il y a de quoi.
Vous n'avez pas beaucoup de soutien public, de financement public.
On a un petit peu, mais effectivement, c'est une toute petite part. Vous avez tout à fait raison, c'est une petite part de notre financement. C'est plutôt des soutiens privés, des donateurs ou des fondations. Alors, la première manière de nous aider, c'est de faire des dons tout simplement sur notre site. Vous avez Hello Asso, vous pouvez nous donner de l'argent.
Donc, la maison de Marthe et Marie, on va sur le site.
www.lamaisondemarthemarie.fr.
Qui était Marthe et qui était Marie?
Alors, Marthe et Marie. Alors, très bonne question. Marthe et Marie, ça fait référence à un texte de l'Évangile. Donc, Marthe et Marie, c'était des amis de Jésus. Alors, Jésus est reçu par Marthe et Marie. Marthe, elle s'occupe de préparer le repas. Et Marie, elle s'assied à côté de Jésus, elle l'écoute. Et ça répond vraiment à l'intuition initiale de besoins matériels et des besoins de compagnonnage et d'amitié.
Et de lien social. La maison de Marthe et Marie. Merci Amélie Merle d'être venue aujourd'hui dans La France Bouge nous en parler. Car Clapa, vous êtes la directrice de la marque Chlorane. Et vous restez avec
La France Bouge. Elisabeth Assayag.
Évidemment qu'elle bouge cette France, hein. Nous le voyons chaque jour entre 13h et 14h autour d'un grand témoin du jour. Aujourd'hui, c'est la journée internationale des sages-femmes et nous à La France Bouge, on a eu envie de mettre en avant ce métier, de mettre en avant les solutions qui existent pour accompagner les jeunes mamans, les bébés, la grossesse dans cette période de la vie. Nous sommes toujours avec Claire Capla, directrice de la marque Chlorane. Alors on l'a vu depuis le début de l'émission, hein. Chlorane, ça fonctionne plutôt bien, une croissance entre 3 et 5% tous les ans depuis 2019. Vous proposez des produits naturels. Hein. C'est important pour vous, des produits qui rassurent les jeunes mamans. Et vous êtes passé un petit peu au bio, mais finalement, c'est la marque qui l'emporte surtout. Hein.
C'est la marque, la confiance dans la marque, la relation à la marque et la confiance dans la marque.
Et on parlait des sages-femmes, justement. Comment Chlorane, aujourd'hui, accompagne ce métier dont on va rentrer dans les détails de ce métier avec Charlotte Barricant dans un instant, mais comment vous les accompagnez? Est-ce que vous, Chlorane, est présente, par exemple, dans les maternités?
Oui, tout à fait. En fait, on a une relation vraiment historique avec les sages-femmes sur deux leviers. D'abord, effectivement, dans les maternités. On travaille avec une cinquantaine de maternités en France, des petites, des grandes. Par exemple, on est présent à l'hôpital Necker aujourd'hui à travers nos produits. Donc, on accompagne les maternités, mais on accompagne aussi des sages-femmes libérales. Donc, aujourd'hui, c'est près de 600 sages-femmes libérales qu'on suit régulièrement.
Ça veut dire quoi, on suit régulièrement?
On va les voir de 2 à 3 fois par an.
Mais vous leur parlez de leurs produits ou vous les formez? Vous faites quoi avec elles?
Alors, les former, non, en fait.
Elles
en savent beaucoup plus que nous, presque. Donc, c'est plutôt leur mettre des produits à disposition et les écouter, en fait. Essayer de comprendre, finalement, comment évoluent les attentes des mamans. Quelles sont leurs problématiques? Quels sont leurs besoins? Nous, on leur fournit des produits. Et elle nous nourrit seulement d'informations, de tendances qui évoluent, de besoins.
Alors justement, depuis la crise sanitaire, est-ce que les tendances et les besoins ont évolué de la part de ces jeunes mamans?
Alors la crise sanitaire, elle renforce cette inquiétude des mamans de qu'est-ce que j'utilise, c'est ça.
Du bon produit sain, pur.
Donc il y a vraiment ce besoin de réassurance très forte, ça c'est le premier point. Et l'autre point, on le voit de plus en plus aussi, c'est la simplification des routines finalement, où les mamans vont passer à peut-être nettoyer le bébé qu'avec de l'eau ou vraiment des produits très très simples. Donc c'est vraiment les deux tendances majeures qu'on voit dans l'évolution de la consommation.
C'est pour ça qu'il y a le liniment qui est revenu au goût du jour. Hein. C'est un produit très naturel, je crois.
Le liniment, c'est un mélange de chaud d'eau et de l'olive.
C'est vraiment très naturel.
Donc on peut même le faire soi-même ou en acheter du tout prêt si on veut une formule clair main. Mais c'est effectivement très naturel.
Et les adultes peuvent le mettre aussi?
Pourquoi pas?
Moi, j'ai essayé de le faire moi-même, mais j'ai abandonné en fait.
Vous avez abandonné. Ouais,
C'est faisable, mais on arrive sur un résultat qui est parfois un peu hasardeux. Quoi. Donc voilà. Si vous voulez quelque chose de vraiment une bonne texture et sûre et qui ne va pas déphaser, qui ne va pas sentir mauvais, prenez-en un tout près.
À travers votre fondation, vous avez aussi formé des sages-femmes en Afrique?
Oui, tout à fait. La fondation Pierre Fabre, cette fois-ci, pas la fondation...
Oui, pas Chlorane, mais bon, vous faites partie d'un groupe, c'est important de le préciser. Vous faites partie du groupe Pierre Fabre, qui a plus de 10 000 collaborateurs.
Qui est détenu à 88% par une fondation, l'utilité publique, qui agit effectivement pour faciliter l'accès aux médicaments dans le monde entier, et notamment dans les zones défavorisées, et qui, par ce biais-là, en fait, interagit avec beaucoup de professionnels de santé, et dont en Afrique, notamment, effectivement, des sages-femmes.
Vous avez formé plus de 10 000 sages-femmes. Alors, chaque jour, dans la France Bouge, Claire Caplin, on aime revenir sur l'histoire d'une marque, d'une entreprise, d'un produit ou d'un métier qui traverse les années, qui sont toujours là, ici, en France. Et aujourd'hui, en cette journée internationale des sages-femmes, un métier qui n'est pas toujours connu, hein, on peut le dire, et surtout reconnu. Du grand public et des professionnels. Et pourtant, il est essentiel. Le Conseil de l'Ordre des sages-femmes existe depuis 1945 parce qu'il a fallu l'encadrer, ce métier, le réglementer. Il est capital et c'est la saga du jour.
Europe 1, la France bouge, la saga.
Bonjour Charlotte Barrican.
Bonjour Elisabeth.
Donc le Conseil de l'Ordre des sages-femmes, ça date de 1945, il encadre un métier qui existe depuis la nuit des temps.
Et oui Elisabeth, les sages-femmes accompagnent les futures mamans dans toutes les étapes de leur grossesse. La profession n'a pas toujours eu le même nom, tantôt matrone, tantôt accoucheuse ou encore maïeuticienne. Il est exercé depuis l'Antiquité quasi exclusivement par des femmes, il n'y a que 3% d'hommes. Il faut attendre le 17e siècle pour que des formations apparaissent dans les grandes villes mais aussi dans les campagnes. Et pour répondre à cela, un tout premier ordre est créé en 1940 par le gouvernement de Vichy, comme nous le raconte Isabelle de Rendinger, sage-femme et présidente du Conseil national de l'Ordre des sages-femmes.
Historiquement, ces ordres, les ordres de santé ont été créés pour exclure les juifs des formations en santé. C'était le premier objectif. Cette organisation, ces organisations ordinales pensées par le gouvernement de Vichy ont été dissoutes, puis recréées dans un second temps par le général de Gaulle, mais pour un objectif, on va dire, tout autre, qui est de pouvoir réguler les professions qui sont réglementées.
Ah bah ça, c'est quand on voit d'où ça vient,
ça fait froid dans le dos.
Charlotte, pourquoi cette profession a besoin d'un conseil de l'ordre? Pourquoi il agit comment?
Eh bien d'abord, il a une mission de service public. Il prend des décisions administratives, notamment pour contrôler l'entrée dans la profession de sage-femme. Concrètement, cela veut dire qu'une sage-femme doit s'inscrire à l'ordre pour pouvoir exercer. Elle doit fournir aussi son diplôme, un équivalent bac plus 5 ou plus. Mais les missions de l'ordre ne s'arrêtent pas là.
Il y a un deuxième volet qui est la mission de représentation. Il sert à défendre l'honneur et l'indépendance de la profession. L'indépendance par rapport aux autres professionnels, l'indépendance par exemple par rapport à l'industrie pharmaceutique. Une troisième mission, c'est une mission consultative et d'information. L'ordre donne son avis sur des projets de règlement, sur des projets de décret ou de promulgation de loi qui concernent la profession et ou la santé et les droits des femmes. Et enfin, la dernière mission essentielle lorsqu'une profession est organisée en ordre, c'est la mission dite déontologique qui veille à l'application et au respect du code de déontologie.
Il y a l'année 95 qui marque un énorme tournant pour cette profession de sage-femme.
Et oui, Elisabeth, et cela grâce à une femme, Simone Veil.
Pour nous, c'est un élément extrêmement fort. De 1945 à 1995, l'ordre des sages-femmes a été présidé par un médecin gynécologue obstétricien, qui montrait d'emblée qu'il était le reflet de la position compliquée et subordonnée de la profession de sage-femme. Implicite, hein, puisque le code de la santé publique, l'organisation de la profession, montre une totale indépendance par rapport aux médecins. Et c'est grâce et sous l'impulsion de Simone Veil que la législation a évolué pour permettre aux sages-femmes de présider, ce qui peut sembler naturel, leur Conseil national de l'ordre des sages-femmes. La première présidente est arrivée à ce moment-là.
Mais c'est quand même fou d'attendre. C'est quand même fou de se dire que c'est une profession qui est exercée par 99% de femmes et c'était un homme qui présidait le Conseil de l'Ordre.
Ça montre l'invisibilisation de la profession.
C'est complètement
aussi
invisible.
C'est ça. Et donc 35 écoles de sages-femmes partout en France forment à ce métier. La première année, tous les étudiants suivent le même tronc commun. Ensuite, ils se spécialisent médecine, dentaire ou sage-femme. Mais il en manque de plus en plus. Et quand on parle de déserts médicaux, c'est également le cas avec la profession de sage-femme.
Les jeunes diplômés n'ont plus envie de travailler à l'hôpital. Il y a quelques années, c'était plutôt 5% des jeunes diplômés qui s'orientaient vers le libéral. Actuellement, en 2022, les chiffres prédictifs nous disent que c'est 40% des jeunes professionnels qui vont s'orienter vers l'activité libérale. Donc vous voyez le manque dans les hôpitaux. Et pour compléter la situation des hôpitaux, c'est très simple. Il y a 20 ans, 30 ans, il y avait 1500 maternités en France. Actuellement, on est en passe d'être sous un seuil inférieur à 480 maternités. On a vu 2/3 des maternités fermées. Ces maternités, elles sont gérées par des textes de 1998. Ça veut dire qu'actuellement, les sages-femmes ne sont plus en mesure d'accompagner physiquement et psychiquement les femmes.
Alors vous l'entendez, la profession manque de bras. Aujourd'hui, on compte environ 24 000 sages-femmes en France et l'Ordre estime qu'il en faudrait 10 à 20% de plus.
Merci Charlotte Barrican pour cette saga du Conseil national de l'Ordre des sages-femmes. Là aussi, Nathalie, hein, pénurie.
Mais pénurie, mais je ne pensais pas que c'était à ce point-là.
Mais ouais.
Et qu'il y avait effrayant. Un engouement, même dans les sages-femmes, pour le libéral, l'entrepreneuriat finalement, puisqu'elles sont à leur compte.
Elles sont à leur compte, elles peuvent gérer leurs horaires, parce que c'est aussi un métier qui est très compliqué, et physiquement, et psychiquement. C'est pour ça qu'on a envie de leur rendre hommage aujourd'hui, en cette journée internationale des sages-femmes. Claire Capla, vous êtes la directrice de la marque Clorane. Alors vous nous avez dit, vous accompagnez les sages-femmes, hein, vous accompagnez même les maternités, les jeunes mamans. La suite, c'est quoi? C'est quoi vos projets? Parce qu'on a vu, vous avez eu des belles innovations qui sont toujours là, comme le shampoing sec, comme le liniment, etc. C'est quoi la suite pour Clorane? Clorane, dans 10 ans, ça ressemblera à quoi?
Très très bonne question. On y réfléchit toujours avec mon équipe. Je pense qu'il y a trois axes vraiment pour Clorane demain. Toujours plus loin le côté sécurité, naturalité. Et un troisième axe dont on n'a pas beaucoup parlé, qui est l'éco-conception, en fait. L'impact qu'ont nos produits à l'utilisation, mais aussi quand on les fabrique. Et donc, c'est quoi les produits de demain qui vont permettre finalement de consommer le moins possible de plastique,
quoi, alors,
d'énergie.
Oui, parce que vous faites hyper attention aux emballages.
Voilà.
Hein.
Nous, on fait très attention.
Du plastique aujourd'hui, 100% recyclé.
Tous nos flacons sont en plastique 100% recyclé. On allège les packagings, les tubes ont des parois plus fines. Donc tout ça, sur le pack, je veux dire, le travail est fait.
Et quand est-ce que vous vous mettez au vrac alors? Parce que nous, on a eu Mustela il n'y a pas longtemps. Ouais. Ils se sont mis au vrac.
Vrac solide, vous n'avez pas grand-chose pour l'instant.
Alors, vrac, on a un point de vente où on en fait à Toulouse, puisque vous savez qu'on est basé en Occitanie et très fier de notre ancrage territorial, puisque 99% de nos produits sont faits dans le Tarn. Donc on teste le vrac.
Tout est fabriqué en France dans le Tarn.
À 99%. Il y a deux exceptions parce qu'on n'a pas les technologies, mais sinon tout le reste est fait en France.
Important de le dire.
Tout à fait. Et donc on a testé le vrac dans un point de vente qui appartient au groupe Pierre Fabre, qui est un laboratoire de test en fait, s'appelle le Lab, qui nous permet de tester plein de nouveaux gestuels. Et donc il est en place depuis un an et il va se déployer dans d'autres points de vente en France à partir de la fin de l'année. Donc le vrac va arriver, mesdames. Sur le solide, je vais vous contredire parce que...
J'en ai vu trois.
Alors,
elle adore le solide.
Voilà. Moi, j'adore
les carrés, les shampoings solides et la poudre, c'est sa vie.
Et solide. En fait, tout part de ce fameux shampoing sec dont vous parliez tout à l'heure, qui est notre premier produit en fait, sans eau. Et on s'est dit, le produit sans eau de demain, c'est effectivement la solution pour économiser les packagings, les poudres et les solides. Et donc, on a quelques shampoings solides, vous l'avez dit, mais on a surtout des galéniques en poudre. On a des masques poudre qui, en fait, à l'eau, se mettent à mousser et font un shampoing. Et donc ça, c'est vraiment le type d'innovation qu'on va pousser pour le futur. Alors, sur le capillaire, sur le visage, mais aussi sur le bébé. Et donc, on travaille là-dessus, mais finalement, c'est
long. Dans 10 ans, vous restez quand même sur l'univers des bébés, quand même.
Bien sûr, oui. Mais on essaye de faire bouger l'utilisation vers ce type de galénique pour se libérer des packagings, du plastique, etc.
Vous restez avec nous, Claire Capla. Vous êtes la directrice de la marque Clorane. Tiens, je vous propose maintenant d'accompagner, de coacher, avec un regard bienveillant, évidemment, une entrepreneur qui se lance, elle aussi, dans les produits pour les jeunes mamans. Vous êtes prête?
Avec plaisir.
Allez, on continue.
Europe 1. La France bouge. Elisabeth Assayag.
C'est parti pour les trophées européens de l'avenir. Chaque jour, elles ou ils exposent leurs projets d'entreprise. Elles ont une minute pour convaincre notre témoin du jour. Elle est exigeante, elle est attentive, elle est bienveillante et c'est une experte. Aujourd'hui, c'est Claire Capla. Vous êtes la directrice de la marque Clorane. Nous sommes toujours avec Nathalie Carré de la Chambre de commerce et d'industrie et un projet qui a été lancé l'an dernier. Bonjour Souheila Mohamed.
Bonjour.
Bienvenue dans la France Bouge. Vous avez 34 ans. Vous êtes la fondatrice de Louvz. Louvz, ça s'écrit L-O-U-V-Z. Ça veut dire quoi, Louvz?
Bon, en fait, Louvz, ça fait référence à la louve, qui est l'animal totem de la famille, la protection. Et du coup, on avait envie de mettre cet animal un peu en avant. Et du
en
coup,
avant,
voilà.
À travers le nom de votre marque. Pourquoi cette marque? Parce que ce sont des produits véganes fabriqués en France pour la maternité et aussi pour tout le long de la grossesse. Vous, Souheila, vous êtes sage-femme. Alors, vous connaissez bien les problématiques, les interrogations que l'on rencontre quand on est enceinte ou quand on accouche. Et à travers ces produits, vous répondez en quelque sorte aux questions de toutes les femmes. Louvz, c'est quoi? Eh bien, on va vous laisser nous raconter la suite. C'est parti pour le pitch, vous avez une minute.
Louvz est la continuité de mon métier de sage-femme que j'exerce depuis maintenant 10 ans. Et c'est à la suite d'une visite à domicile qui m'a profondément bouleversée que j'ai décidé de créer des rituels qui ont du sens, pensés pour chaque étape de la maternité. Quand vous accouchez, que vous rentrez à domicile, on vous prescrit une ordonnance avec des antidouleurs, une contraception. quand vous avez de la chance, une sage-femme passe à domicile et vous donne des astuces qui sont du système D. Louvs met fin à ce système D en proposant des soins qui sont à la hauteur de ce que vivent les femmes. Notre priorité est le postpartum, puisque 78% des Françaises vivent mal leur postpartum. Et du coup, j'ai créé le premier rituel pour le périnée en 4 étapes. Donc en 1, on va venir préparer en amont de l'accouchement ce fameux périnée. En 2, on va venir le soulager dans le postpartum immédiat. En 3, on va venir le nettoyer pour favoriser la cicatrisation. Et dans un dernier temps, en 4, on va venir le réparer. Le postpartum est un temps de guérison déterminant dans la qualité de vie des femmes. Prendre soin de son périnée, c'est avant tout prendre soin de son intimité pour toute la vie.
Et tout ça à travers des produits.
C'est ça.
Bravo pour votre pitch, Souhaïa. C'était vraiment, on a tout compris.
Ah, mais tout compris. Hein,
c'était très clair. Je me tourne vers Nathalie Carré, qui a analysé donc votre projet d'entreprise, qui a à peine un an. Nathalie Carré, quelles sont les forces et les faiblesses de Louvs?
Alors, j'ai pourtant pas accouché il y a 50 ans, hein, mais c'est vrai, quand j'y pense, que ces soins postpartum furent totalement oubliés de toutes mes conversations avec le personnel rencontré à la maternité.
C'est vrai. Ça,
oui. Le périnée, moi, je ne savais pas ce que c'était, hein, jusqu'à voilà.
Jusqu'à Louvs.
Jusqu'à. Non, j'ai appris quand même.
Parce qu'en fait, il y a le côté, quand bébé va bien, tout va bien. Et le reste est secondaire.
Mais la mère,
ah, c'est ça, la mère, elle est
derrière,
allez,
si le bébé va bien.
Voilà. Donc bravo pour la description de chacun de vos produits. Puis vous avez ce côté, le mot de la sage-femme, c'est super rassurant pour les mamans qui ne savent plus quand même à quel sein se vouer. Vous n'avez pas beaucoup de produits, mais c'est vraiment les essentiels.
Super, hein.
Et les prix sont parfaitement abordables.
Attendez, on donne les noms des produits. Rituel Aptonomie, oui, à base de jojoba, d'argan, de rose musquée. On a donc la tisane de préparation à l'accouchement. On a le rituel périnée à base d'acide hyaluronique et de calendula aussi. C'est un soin postpartum. Et il y a aussi...
Alors, c'est la grande découverte, c'est la douche pour le périnée.
La douche pour le périnée.
Moi, j'ai regardé le mode d'emploi parce que je ne savais pas du tout comment ça marche.
On apprend tout le temps.
Mais voilà. Alors, quelques suggestions pour aller plus loin. Ce que vous faites est génial, mais comme on ne sait pas que ça existe, eh ben, on ne demande pas à notre moteur de recherche préféré de vous trouver. Hein. Personne ne nous parle de nous masser le périnée, par exemple. Oui. Voilà. Donc, première mission, informer, décrypter, sensibiliser. Alors, votre blog va devenir votre meilleur ami, mais avec l'aide d'un spécialiste en référencement naturel, parce que c'est vraiment tout un art. Pour bien faire, il faudrait vraiment que vos contenus, que ce soit des articles, des vidéos, des podcasts, parlent aux femmes, en fait, dès le début de la grossesse. Le périnée, c'est quoi? À quoi ça sert? Que va-t-il subir pendant 9 mois?
Qu'elle suive une communauté, finalement.
Avec vraiment, effectivement, on va venir sur la communauté. Mais puis, alors, pourquoi on le coupe, ce fameux périnée? Et ça fait mal, d'ailleurs. Enfin, oui, ça fait mal, beaucoup l'ont eu. Bref, il faut vraiment
que les futures... vous parlez de l'épisiotomie, en fait,
oui,
c'est ça, le périnée.
D'accord, j'ai coupé le périnée, cette histoire.
Au-delà de l'épisiotomie, j'ai envie de rappeler, c'est bon, l'épisiotomie, on essaie de l'éviter. Moi, personnellement, de toute ma carrière de sage-femme, j'en ai fait 2. Donc, c'est vraiment la tendance. Par contre, ce qu'on oublie, c'est qu'il y a quand même des déchirures qui se font naturellement.
Ah, oui.
Donc, même si statistiquement, l'épisiotomie diminue, il n'empêche qu'on a de fortes chances
d'avoir des problèmes secondaires,
que ce soit la déchirure, même des simples éraillures qui ne sont pas grand-chose
pour
le corps médical.
Ah bah clairement, et ça, votre marque y répond.
C'est ça.
Donc effectivement, informer sur tous ces sujets qui turlupinent les mamans, et il y en a beaucoup. Ensuite, opération partenariat. Alors, vous n'êtes que 2 entreprises à proposer des produits de ce type. L'autre entreprise est américaine. Donc faites valoir votre singularité française pour proposer des contenus à des revues, des blogs sur la maternité, ainsi que sur des plateformes dédiées à la maternité ou la parentalité, pardon, comme Le Couffin par exemple. Et puis à l'inverse, invitez des partenaires sur votre site et votre blog. Je pense par exemple au livre In Périnée We Trust, écrit par une kiné, si vous le validez évidemment, je ne l'ai pas lu, ou aux accessoires utilisés pour la rééducation du périnée, ou tout ce qui est utile pendant la grossesse et après. On a vraiment besoin d'un expert parce que trop d'infos tue l'info, on a besoin de quelqu'un qui nous aide à trier de quoi on a vraiment besoin pour quelle situation. Enfin, opération communauté, Elisabeth en parlait. Un expert est toujours meilleur avec une communauté qui l'enrichit de ses inquiétudes et qui l'aide à co-construire. Vous pourriez donc proposer des moments de réponse aux questions en direct, des moments d'échange entre mamans ou futures mamans, et puis des moments dédiés aux futurs papas, parce qu'à mon avis, eux aussi, ils se demandent ce que c'est que ce foutu périnée. Décrypté, rassuré, parce que Louvs, c'est la sage-femme qui s'occupe des mamans mieux qu'une louve.
Merci. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? La sage-femme qui s'occupe des mamans, mieux
mais
j'aime bien, c'est super ce slogan.
Je prends note mentalement.
Ils sont chers, vos produits?
Alors, on est, pardon, pour le bidet, on est à 15 euros et le plus cher, ça va être l'huile de le sérum réparateur pardon, à l'acide hyaluronique qui est à 49,90 €. Parce que forcément, c'est des actifs qui coûtent plus cher. Donc, on essaie quand même de coller au plus près
c'est important. Des produits. Et la qualité à un prix. Vous fabriquez tout où ?
En France.
Tout en France, c'est-à-dire ?
Les produits, les cosmétiques, les huiles. Les tisanes sont faites en France. Par contre, il y a les accessoires comme le bidet et le cold pad. Malheureusement, pour l'instant, on ne peut pas les faire en France.
Il n'y a pas les produits, il n'y a pas les composants, il n'y a pas ce qu'il faut. Qu'en pense notre grande patronne du jour, Claire Capla, la directrice de la marque Chlorane ?
Déjà, je voulais remercier parce que moi, j'adore rencontrer des startups. Elles font bouger les choses, elles nous poussent à nous poser des questions, nous les mastodontes, on va dire.
Vous êtes en train de me dire, tiens, on n'a pas fait le bidet pour périnée.
Et donc, c'est j'adore, c'est génial. Évidemment, je trouve l'idée très intéressante. Je pense que vous remplissez, vous l'avez dit, une niche finalement. Mmh. Ça n'existe pas du tout. Donc, et alors qu'il y a un besoin. Alors moi, je suis jeune maman, j'ai accouché il y a un an. Donc autant vous dire que ça me parle particulièrement.
Il y a peut-être quelque chose,
je trouve que c'est très pertinent. Et après, peut-être mon conseil, je vais rebondir sur ce que vous disiez. Je pense qu'aujourd'hui, on dit que le succès d'une marque ne dépend pas de ce qu'en dit son fondateur, mais de ce qu'en disent ses consommateurs. Donc, je reviens sur la communauté. Et aujourd'hui, en plus, on le voit, les mamans, elles sont perdues. Elles ont besoin de conseils. Et elles parlent à d'autres. Elles partagent leurs conseils sur des communautés. Il y a la plateforme WeMoms, il y en a plein d'autres de ce style, où les mamans, en fait, cherchent l'information. Et donc, si vous arrivez à vous créer une base de micro-influenceuses, macro-influenceuses, qui vont parler des produits, partager leurs tips, je pense que derrière, il y a un tel besoin que ça va faire effet boule de neige et que ça pourra vraiment vous amener sur la roue du succès que je vous souhaite.
Donc vous validez à 100%.
Tout à fait.
Ça fait du bien. C'est uniquement avec vos fonds propres, là, tout ce que vous avez fait ? Vous avez levé des fonds ?
Non, c'est des fonds propres.
Hein. Vous en pensez, Nathalie ?
Ah bah, bravo.
Vous continuez comme ça. Hein.
Puis surtout, c'est bien la première fois quand même qu'une créatrice me dit on est les seuls à le faire et c'est vrai.
Et c'est vrai. Vous avez
l'autre boîte est
appuyé sur une niche.
C'est ça.
Franchement, bravo. Bravo à vous, Soya Mohamed. Vous êtes la fondatrice de Louvre. On vous souhaite bonne chance. Vous reviendrez dans la France Bouge. Vous parlez de la suite. Vous allez en développer d'autres, tes produits ?
C'est le projet, c'était, là, je me suis un peu concentrée sur le postpartum parce que c'est vraiment la grosse difficulté. Et du coup, c'est de proposer de la préconception, puisque toute la grossesse, et répondre à toutes les problématiques que j'ai pu rencontrer en consultation auprès de mes mamans.
Et vous allez continuer à rencontrer parce que vous continuez à exercer.
Alors, je n'exerce plus en libéral parce qu'on ne peut pas. Quand on est sage-femme, on ne peut pas faire les deux, entreprendre dans le même monde de la maternité. Mais par contre, j'ai un petit peu quand même prêté main forte récemment dans une maternité qui est en grande difficulté, comme beaucoup de maternités.
C'est certain de le dire, il y a beaucoup de pénuries, donc parfois vous allez donner des coups de main.
Quand on me demande, c'est vrai que j'essaye, ça a été un mois intense entre Louvre et les gardes et de reprendre, mais parfois il faut aider comme on peut.
Et ben, bravo à vous, Soya Mohamed, fondatrice de Louvre, des produits pour la maternité tout au long de la grossesse, et ça n'existe pas ailleurs,
oui, il faut le dire. Hein.
C'est pas une marque, c'est pas des produits qu'on retrouve tous les jours.
Europe 1, la France bouge. Elisabeth Assayag.
Et c'est déjà la dernière partie de votre émission. Ça passe toujours trop vite en cette journée internationale des sages-femmes. Nous avons parlé de ce métier, la sage-femme, et nous sommes avec notre patronne du jour, c'est Claire Capla. Vous êtes la directrice de la marque Chlorane. Dans la France Bouge, on aime mettre en avant ces entreprises qui placent le capital humain au cœur de leurs préoccupations, comme dans cette start-up où a été mis en place, oui, un congé menstruel. Bonjour Manu Jean.
Oui, bonjour.
Vous êtes ébéniste chez Louis et porte-parole de ce projet de ce congé menstruel. Louis, c'est une start-up qui a été créée il y a 4 ans. Vous faites du mobilier de bureau sur mesure. Vous êtes situé près de Toulouse. Il y a 18 salariés qui travaillent dans cette entreprise. Et tout est parti d'un questionnaire anonyme qui a été distribué aux salariés. Donc tous les salariés pouvaient mettre des petites questions, des interrogations. Et parmi les interrogations, il y avait cette question. Pouvons-nous mettre en place un congé menstruel dans l'entreprise ? C'est resté sans réponse pendant 2 mois, c'est ça ?
C'est ça, à peu près. Donc, on a eu cette question qui est sortie lors d'une réunion. Et au bout de 2 mois, c'était un peu dans les oubliettes. Et puis, Lucie a décidé d'en reparler et j'ai décidé de me greffer à elle sur le projet.
Voilà, donc Lucie, c'est la salariée qui a donc été identifiée, hein, qui a dit « moi, je ne veux pas lâcher ce projet ». Elle a remis le sujet sur la table. Vous avez eu envie de la soutenir et de porter le projet. Et vous avez construit ce projet pour aller convaincre les fondateurs de l'entreprise, parce que je tiens à signaler qu'il y a quand même plus de 60% des salariés dans votre boîte qui sont des hommes. Donc, il fallait comprendre la notion de congé menstruel.
Tout à fait, oui, en effet.
Comment vous avez fait ?
Alors déjà, dans un premier temps, on a décidé de se réunir avec les personnes qui étaient concernées par les règles et pour avoir leur point de vue,
donc
pour savoir
femmes.
Un peu ce qu'elles en pensaient, tout à fait. Et derrière, donc tout le monde était complètement partante pour lancer ce projet. Donc on a décidé de le présenter aux fondateurs et ils nous ont tout de suite suivis.
Mais vous avez exposé le projet comment ? Vous avez fait des tableaux, des PowerPoint ou vous avez fait comment ?
Mais c'est quoi ? C'est un jour de congé par mois ?
C'était presque ça. On a décidé de faire une sorte d'exposé un peu sur les règles qu'on a présenté ensuite à toute l'équipe une fois que les patrons étaient d'accord.
Ouais.
C'est ça, exactement. Ouais. On a fait des quiz, on a essayé de faire quelque chose d'assez ludique. Et en fait, c'était surtout dans un but premier de lever le tabou.
De lever ce tabou des règles. Alors justement, ça donne quoi comme résultat ? C'est quoi ? C'est un jour par mois ? Comment on se déclare congé menstruel ? C'est quoi l'idée ?
Alors, dans le concept, ce qui se passe, c'est que, en effet, c'est un jour de congé qui peut être posé par les salariés, le jour de leurs règles, où il y a aussi l'option du télétravail pour les personnes qui peuvent télétravailler. Donc, nous, dans notre entreprise, on a une partie des personnes qui sont dans l'atelier, donc le télétravail n'est pas possible. Et donc, du coup, il suffit juste... Pour la personne qui a ses règles, si le matin, c'est trop compliqué, le matin même, elle peut poser... Elle peut poser ce congé, il suffit juste de prévenir le responsable de production ou les patrons.
C'est génial. Donc ce congé menstruel a été mis en place depuis 8 mars. Petit clin d'œil pour la Journée internationale des droits
Exactement.
Des femmes. Sauf que personne ne l'a encore utilisé.
Si, ça y est. Maintenant, quelqu'un l'a utilisé. Hier, oui, tout à fait.
Formidable. Non, mais parce que ça doit être compliqué quand même. C'est un peu... Enfin, faut oser poser sur son... Voilà, donc c'est compliqué. Mais s'il y en a une qui l'a fait, ça y est,
ça va suivre.
Hein, ça va suivre. Merci à vous, Manu Jean, d'être aujourd'hui, d'avoir témoigné dans La France Bouge, hein, puisque vous avez osé, vous avez eu l'audace en tant qu'homme. Hein, donc on vous félicite d'avoir porté ce projet de mettre en place les congés menstruels dans votre entreprise. Je rappelle que vous êtes ébéniste chez Louis et porte-parole du projet Claire Capla. C'est déjà la fin de l'émission. Il y a des congés menstruels chez Chlorane ?
Non, pas encore.
Pas encore ? Bon,
mais
peut-être.
Ça fait réfléchir.
C'est
oui,
à réfléchir. Vous viendrez nous en parler. Directrice de la marque Chlorane, c'est déjà la fin de votre émission. Nathalie Carré, à lundi. Lundi, on se retrouve avec la licorne française de la mode, puisque la patronne de Vestiaire Collective sera ici, autour de la table de La France Bouge. Allez, à lundi.